À une certaine époque, notre société était un peu comme un village isolé où tout le monde était chrétien. Il était alors possible de penser que seuls seraient sauvés ceux qui confessent Jésus-Christ bien comme il faut. En fait, comme moi. Mais aujourd'hui, nous avons de vraies relations de travail, d'amitié, de famille avec des personnes qui sont de religion, de conviction, de philosophie, de culture différentes. Et si l'on ouvre les yeux, si l'on ouvre son cœur, si l'on ouvre son intelligence, si l'on pense dans la prière aux personnes que l'on a rencontrées, il me semble difficile de se dire que les milliards de non-chrétiens méritent la mort éternelle et que Dieu leur dit avec un petit sourire gêné « Désolé, pour toi, ça ne sera pas possible. Je suis obligé de te mettre à la poubelle ou de te laisser dans la poubelle car là, en réalité, est ta place. » C'est choquant car nous avons bien souvent senti que ces personnes non chrétiennes sont comme nous, qu'elles essayent souvent de vivre en y mettant leur cœur, leur foi ou leur idéal, en faisant preuve de solidarité, en essayant de faire preuve de bienveillance et de compassion pour leurs voisins qui souffrent. Alors cette question du salut pour les non chrétiens est une des grandes questions qui est posée aujourd'hui à l'homme, à la femme, dans ce monde. Les implications sont considérables, non seulement pour notre propre vie, pour notre relation avec les autres, aussi pour notre façon de témoigner autour de nous de Jésus-Christ, mais cela a des implications aussi importantes sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan social, dans notre cité. Alors nous avons de la chance parce que cette question est présente dans la Bible. Parce qu'en fait, le monde, à l'époque de la Bible, à l'époque de l'Évangile, était au moins aussi mondialisé qu'il l'est dans notre 21e siècle. L'époque d'une société plutôt homogène et isolée est comme une parenthèse, en fait, dans l'histoire. Alors, je voudrais vous lire deux textes qui sont sous la plume de l'apôtre Jean, semble-t-il. Alors d'abord, c'est au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, les 11 premiers versets. C'est Jésus à la fin de son ministère, donc quelques heures avant d'être arrêté, donne ainsi un peu son testament spirituel. « Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit Jésus, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Et donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ensuite, je voudrais vous lire dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 17. « Bien-aimés, nous dit-il, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme signe de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans le monde. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour laisser ces textes résonner à l'intérieur de nous-mêmes, le psaume numéro 24 dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume, « La terre au Seigneur appartient ». Le psaume 24. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime, et qu'en t'aimant, j'apprenne à aimer mon prochain. Augmente en moi ces dons jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Il y a dans ce passage de la première lettre de Jean une affirmation qui est d'une ouverture extrême pour toute personne de bonne volonté, sans critère de foi, de religion ou de philosophie. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Jean dit cela dans le contexte d'une église chrétienne qui est extrêmement minoritaire dans un monde qui est au carrefour de toutes les civilisations. Et ce passage nous dit que toute personne qui aime est profondément en communion avec Dieu, quelles que soient ses idées, sa religion, sa théologie, sa philosophie. Et quand bien même la personne en question ne serait pas tellement aimante, comment ne pas lire une promesse du pardon de Dieu dans cette somme théologique condensée en un seul mot, Dieu est amour. Cette théologie n'est pas une invention de Jean, bien entendu. Elle est massivement présente dans les paroles, dans les actes de Jésus, disant que Dieu aime, bénit, fait du bien, sans se lasser, même pour ses ennemis. Que Dieu est comme un berger qui part à la recherche de sa brebis, même si c'est la plus perdue des perdues, qui va la chercher dans le monde et qu'il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve, sans l'ombre d'un doute qu'il finira par la retrouver, nous dit Jésus. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ce passage si ouvert aux non-chrétiens est introduit par un message qui est des plus fermés et des plus menaçants qui soient, des plus resserrés sur les seuls chrétiens. Voilà ce que nous dit Jean, un tout petit quelques versets avant. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu dans la chair, cet esprit est de Dieu. Mais tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, cet esprit n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. » Jean est donc tout aussi clair, net et précis dans cet exclusivisme rigoureux en faveur des chrétiens, qu'il l'est dans son ouverture extrême, quelques versets plus loin, aux non-chrétiens. Or, Jean n'est pas un imbécile, ce n'est pas une erreur, puisque quelques versets plus loin, il récidive en mettant là aussi ce libéralisme et ce fondamentalisme, mais dans la même phrase. Celui qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu, nous dit Jean, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous voyez, nous avons encore ce double message apparemment d'ouverture et d'exclusivisme. Alors cela mérite de s'y pencher d'un peu plus près pour comprendre la logique de Jean dans ce texte. Eh bien, cette phrase, elle reprend donc deux fois de suite le même schéma, la même annonce, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. C'est la promesse de la vie véritable, bien entendu, ce que aucun auteur biblique ne prend à la légère et met comme cela un peu comme si ce n'était pas important. Non, il y a là donc le cœur de son texte, la pointe de son texte. Et de fait, quand Jean fait ce rapprochement dans ce verset, entre ces deux formules, il pose une équivalence entre confesser Jésus-Christ publiquement et habiter cette façon d'être qu'est l'amour. Alors ce rapprochement, à mon avis, est tout à fait passionnant, il peut se lire dans différentes façons. C'est passionnant pour comprendre le fond de la pensée de Jean sur cette question du salut que des chrétiens ou de tout le monde. Mais aussi, cela permet de comprendre le sens de bien des passages des évangiles qui pourraient sembler étranges ou choquants. Cela veut dire que quand le Christ invite à croire en lui, il ne cherche pas à se mettre en avant lui-même, mais il met en avant ce qu'il sert et ce qu'il incarne, un message et une façon d'être qui est celle de Dieu en fait. Et ce message et cette façon d'être, Jean les résume ici en un seul mot, c'est l'amour. Cet amour est la façon d'être de Dieu, cet amour est Dieu lui-même en fait. Mais le fait que cet amour s'incarne en Jésus, un personnage historique, en fait plus qu'une simple notion philosophique, quelque chose d'abstrait. Mais c'est une réalité qui se voit, qui s'incarne dans notre histoire personnelle, qui s'entend, c'est une réalité qui se crie sur les toits et qui se vit dans des gestes. Et donc quand Jean dit que celui qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus est un antéchrist, ce n'est pas pour injurier les athées ou les bouddhistes ou je ne sais qui. Ce n'est pas la question. Jean fait remarquer, d'ailleurs, qu'il arrive aussi aux chrétiens de ne pas aimer suffisamment leurs frères. Ce que dit Jean ici, c'est qu'indépendamment de la religion des uns ou des autres, aimer, c'est vivre. Et donc, à contrario, l'indifférence, c'est la mort, l'égoïsme, c'est la mort, la rancœur, la logique du donnant-donnant, la méchanceté, c'est la mort. C'est l'anti-façon d'être de Dieu, façon d'être qui est manifestée de façon éclatante en Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un « Sésame, ouvre-toi » qui ouvre les portes du paradis comme Ali Baba ouvrait la caverne au trésor. De toute façon, en Christ, nous dit Jésus-Christ, nous savons que Dieu est amour. La question n'est donc pas d'entrer au paradis. Le royaume de Dieu, nous dit le Christ, de toute façon s'est approché, il est là. La question, c'est de se laisser transformer par ce royaume de Dieu. Et donc ce rapprochement entre témoigner du Christ comme fils de Dieu et aimer, ce rapprochement est très éclairant sur la valeur possible d'autres religions et d'autres cheminements. Jean témoigne du fait que la vie qui anime le Christ est cet amour qu'est Dieu. Et c'est vrai. Mais le Christ n'a pas pour autant le monopole de l'amour, heureusement pour l'humanité. Dieu cherchait déjà, du temps des hommes préhistoriques, à donner aux hommes un cœur de chair à la place de leur cœur de pierre, pierre taillée ou pierre polie, qu'importe. C'est dans ce sens que Christ existait avant Abraham, avant même Cro-Magnon, car dans leur espérance, il existait déjà une certaine intuition de cet amour de Dieu. Quand ils peignaient des bisons sur les parois de leur grotte pour favoriser leur chasse, ou quand ils commençaient à enterrer leurs morts avec un certain rituel. Il y avait quelque chose de la façon d'être du Christ quand ils avaient un peu de compassion pour leurs collègues blessés ou tués par un mammouth, alors qu'ils auraient pu se réjouir finalement de voir un concurrent disparaître. Alors cette ouverture, c'est ce que dit Paul dans la très sérieuse lettre aux Romains. Là non plus, il ne rigole pas en marquant n'importe quoi. Il nous dit, quand les païens qui n'ont pas la Bible font naturellement ce qui est prescrit par la Bible, ils sont pour eux-mêmes une révélation de Dieu. Ils montrent que l'œuvre de la révélation de Dieu est écrite dans leur propre cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors oui, Jésus est Christ, au sens où il incarne magnifiquement cette révélation de Dieu, cette façon d'être de Dieu. Il incarne, voilà, la personne de Dieu et la façon d'être de Dieu qui consiste à vivre selon un amour créateur. Et donc cette foi en Jésus-Christ, qui donne la vie éternelle, comme dit l'Évangile selon Jean, ou ce nom de Jésus-Christ, ce seul nom qui puisse nous sauver, nous dit Pierre dans le livre des Actes, eh bien ce nom de Jésus-Christ ou cette foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une formule incantatoire. C'est valoriser une certaine façon d'être, une certaine idée de la justice, c'est rechercher la source finalement de cette façon d'être pour y puiser et pour proposer à d'autres d'y boire à leur tour. Donc oui, évidemment, cela a pleinement sens de placer sa confiance en Christ et de témoigner du Christ auprès de ceux que l'on aime. Mais il y a aussi des personnes qui aiment en dehors du christianisme et qui sont donc nées de Dieu et qui connaissent Dieu, comme nous le dit Jean, au moins en partie. Ce rapprochement entre témoigner du Christ comme fils de Dieu et aimer, ce rapprochement permet de comprendre ce passage essentiel de l'Évangile selon Jean que je vous ai lu aussi tout à l'heure. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors il y a deux façons de lire ce texte, soit comme une fermeture, soit comme une ouverture. Ce passage peut être lu comme une fermeture, voire comme une menace. Seuls les chrétiens seraient vraiment vivants, seule la foi chrétienne est la vérité, et tous les autres sont perdus pour toujours, accompagnés, si l'on croit certaines personnes, par les mauvais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme eux en fait. Et ce « nul ne va au Père que par moi » peut être lu également comme une ouverture, à contrario, comme une promesse, comme une bonne nouvelle, comme un évangile. Toute personne qui est en vie, et nous en connaissons qui ne sont pas chrétiennes, toute personne qui a un cheminement vrai, et ça peut être le cas de différentes personnes, Toute personne donc qui est vivante et qui a un cheminement vrai a du Christ en elle. Elle a de cette manière d'être qui vient de Dieu et qui est née de lui finalement, de son élan créateur, de son esprit. Et cette personne est donc déjà dans la vie éternelle. Elle a quelque chose de christique en elle. L'idée même de l'existence d'un Dieu unique peut de la même façon être comprise de deux façons, comme un exclusivisme ou comme une ouverture. Alors il y a un seul Dieu, le mien, entre parenthèses. Par conséquent, tous ceux qui appellent Dieu d'un autre nom sont dans l'erreur, car la vérité c'est d'appeler Dieu, Dieu, comme moi. Alors tous ceux qui appellent Dieu Allah, Hachem, Toutatis ou je ne sais comment, ils sont dans l'erreur. Tous ceux qui ont des dieux multiples sont dans une erreur abominable, et ceux qui n'invoquent aucun dieu, c'est peut-être encore pire. Mais tous ceux qui donnent à Dieu le même nom que moi, c'est déjà pas mal, mais qui ne sont pas assez trinitaires, ou qui sont trop trinitaires, ou qui trop différents, tout cela aussi, hop, à la poubelle avec, car il y a un seul Dieu, un seul chemin, une seule vérité. Alors il y a une autre façon de vivre le monothéisme. Le monothéisme n'est pas fatalement source d'intolérance et de guerre. Au contraire, puisqu'il y a un seul Dieu, on peut dire que toute personne qui recherche, qui pressent plus ou moins une divinité, une transcendance, par définition, puisqu'il y a un seul Dieu, ben, c'est le même Dieu qu'elle cherche, qu'elle pressent et qu'elle honore. Toute personne qui a un peu d'idéal et qui lève ses yeux vers le haut, il regarde forcément vers Dieu, car en haut, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule montagne, qu'un seul sommet, et ce sommet, c'est Dieu. Mais vous allez peut-être me dire, Jésus parle bien ici de la vérité. C'est qu'il n'y en a qu'une, et que les autres sont dans l'erreur. Eh bien non. Non, car dans la pensée biblique, il y a un seul mot pour dire la vérité et la fidélité, et la foi, c'est Emouna, qui a donné le mot « Amen » que nous connaissons bien. La vérité dont parle Jésus ici, c'est donc, ou plutôt la vérité qu'il incarne, si vous voulez, par sa vie, ses paroles, ses actes, et par sa mort, cette vérité, ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est d'accord, pas d'accord, ou quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Non, cette vérité qui est en cause ici, c'est une relation, c'est une fidélité. Une fidélité à ce qui est l'essence même de la vie, une fidélité à ce qui fait avancer, à ce qui fait cheminer vers la source de la vie que l'on peut appeler Père. Des personnes peuvent donc penser des choses différentes tout en étant toutes dans le vrai. Par exemple, c'est bien connu comme illustration, des personnes qui sont réparties autour d'une montagne auront raison de dire que pour aller au sommet, il faut se diriger à l'ouest pour l'une, se diriger vers le nord pour une autre ou vers le sud-est pour une troisième. Tout dépend où elle se trouve au pied de la montagne. Alors ce n'est pas du relativisme de dire cela, comme si tout se valait, non. Mais la vérité dépend alors de la situation. Elle dépend alors de la personne et du moment de son histoire. Ça dépend de sa relation avec cet ultime qu'est Dieu, le seul Dieu. Ce n'est pas du relativisme, car Jésus nous propose ici des indicateurs qui sont précieux pour savoir si nous sommes dans la vérité pour nous. La vérité dont il est question ici, nous dit-il, c'est un cheminement et une vie. Elle est cheminement vers le Père, cheminement vers cette source de vie qu'est l'amour. Alors cela peut s'examiner très concrètement dans un questionnement simple et très quotidien. Est-ce que ma foi me fait cheminer? Est-ce que par elle ma vie fait grandir? Est-ce que par elle ma vie fait grandir la vie autour de moi? Est-ce que ma théologie, ma philosophie de vie, ma religion, mon rythme me font avancer ou me paralysent, me bloquent? Eh bien cela dépend des gens. Par exemple, telle personne à un moment donné de sa vie a besoin d'avoir des bases de certitude bien bétonnées, un catéchisme de base sur Dieu. Là-dessus, elle peut un peu construire à sa guise. D'autres personnes seraient bloquées, gênées par des certitudes bien bétonnées et auraient plus besoin d'une stimulation pour sa recherche. Tout dépend de là où on est, de sa sensibilité, de ce que l'on est à un moment donné. Et donc la question n'est pas de savoir si un chrétien est meilleur que les autres. Mais la question que Jésus nous propose de retenir ici, c'est de savoir si nous devenons meilleurs que le nous-mêmes d'hier. Si nous cheminons vers la vie, si nous augmentons la vie. C'est ça la question. Nous pouvons donc nous examiner nous-mêmes et nous pouvons aussi avoir cela en tête quand nous pensons à ceux qui sont autour de nous, à nos proches. Il ne s'agit pas d'aller juger les autres, de savoir où ils en sont, ni de vouloir retirer la paille qui est dans leur œil, on sait bien que ce n'est pas tellement une bonne idée, mais quand même, on peut susciter chez eux un questionnement fécond, on peut essayer d'établir un dialogue entre les deux où tous les deux nous pourrons peut-être aller boire ainsi à la source commune. L'essentiel, c'est que chacun creuse bien son propre chemin, qu'il approfondisse son sillon et qu'il l'affine finalement, plutôt que de l'élargir en essayant de faire de la confiture avec tout et n'importe quoi. Pour l'instant, nous ne pouvons pas voir ce qui est derrière la montagne pour juger parfaitement de ce qui est bon pour l'autre. Si tel cheminement, telle religion, telle philosophie convient bien à une personne, au sens défini plus haut par Jésus de capacité à cheminer et à aller vers la vie, eh bien qu'elle creuse ce chemin et qu'elle y soit fidèle. Cela ne nous empêchera pas de témoigner de ce qui nous fait vivre, nous, de nous témoigner de Jésus-Christ, de ce que ça nous apporte, de ce qu'il a dit sur la vie et sur Dieu. C'est une attitude de respect, finalement, de témoigner de ce qui nous anime, de respect pour l'autre, de lui offrir ainsi le meilleur de ce qui me fait vivre. Mais on peut garder en tête, on peut savoir qu'il est possible que la vérité de cheminement et de vie soit pour lui différente de ce qui est vérité de cheminement et de vie pour moi. C'est ainsi que dans la page d'Évangile que James nous a lue dimanche dernier, le Christ ose dire qu'il n'a jamais vu d'aussi grande foi que celle du centurion romain qui vient de demander un coup de main pour que Jésus guérisse un de ses serviteurs. Pourtant, ce centurion, il rendait nécessairement un culte à l'empereur de Rome comme à son Dieu. Il ne considère pas vraiment Jésus comme le Christ, mais comme un guérisseur puissant. Il n'a pas, apparemment pas un mot pour reconnaître Jésus comme fils de Dieu, ce qui d'ailleurs aurait probablement été pour lui le considérer un peu comme un nouvel Achille, probablement. Mais il y a une chose qui fait que ce centurion a une grande vérité, une grande fidélité ou une grande foi, c'est la même chose. C'est qu'elle l'a mis en mouvement, elle l'a rendu vivant, elle l'a rendu capable, lui qui est un chef, habitué à commander, de se faire serviteur de son serviteur pour qu'il ait la vie. Oui, le centurion a cheminé par l'amour et vers l'amour ce jour-là. Et peut-être que le pas suivant l'amènera à reconnaître en Jésus plus qu'un guérisseur, mais qu'il reconnaîtra en lui le Fils unique de Dieu et le Christ. Mais finalement, la suite de cette histoire, elle est en suspens, elle est à écrire, comme bien souvent dans les pages de la Bible, la suite est à écrire avec notre propre vie. Amen.